Les rêves, c'est précieux. On expérimente plein de choses. C'est les voies qu'on n'a pas prises dans le réel.
Moi, je crois que c'est quelque chose d'exquis de se dire qu'on a écrit une lettre à des amis ou qu'on a un travail à faire et de ne pas le faire en disant qu'on préfère volontairement laisser les choses se faire toutes seules ou bien peut-être par les autres.
Dans le Diwa, du 14 au 19 septembre, à l'initiative du théâtre Les Airs, à Dix, ont eu lieu les voisinades artistiques, où une quinzaine de compagnies de spectacles du Diwa ont eu la possibilité, enfin, de présenter leur création au public, et précisément dans leur espace de création ou environnant propre à chacune. Et ce, malgré le contexte encore difficile de l'urgence sanitaire. Air Diwa s'est associé à ses voisinades en effectuant des captations sonores et d'entretiens avec les artistes. Ainsi, tour à tour, ils ont répondu à une série de questions, notamment sur la présentation de leurs projets artistiques, leurs propositions pour les voisinades, l'intérêt de ce partenariat avec le théâtre, l'adaptation des spectacles sur un espace public, la relation avec le voisinage et son interaction avec ce dernier. Et pour terminer, leur perspective quant à la création du spectacle vivant. Bonne écoute.
Je m'appelle Jacques Gomez, chanteur, comédien, metteur en scène. J'ai proposé dans le cadre des voisinades un projet autour des Fables de La Fontaine, qu'on a intitulé avec ma partenaire Monique Sirène, qui est claveciniste, « Comment l'esprit ne leur vint pas ». Alors nous sommes inscrits tous les deux dans le Diwa, elle, depuis un peu plus longtemps que moi, mais on s'est rencontrés plutôt autour de projets de musique classique. On a en l'occurrence travaillé sur une création autour de l'Apocalypse de Jean, avec un compositeur organiste qui a improvisé en fait à l'orgue. On a donné ça dans le courant de l'été 2021 et on s'est assez spontanément trouvé, je dirais, elle et moi, et on s'est dit tiens, alors elle m'avait parlé de projets qu'elle avait. Elle fait partie de cette génération de musiciens qui sont plutôt qui font partie du renouveau du baroque en France. Donc elle a vraiment travaillé avec les pionniers, en l'occurrence elle a travaillé avec une claveciniste qui était Huguette Dreyfus, qui était quelqu'un d'une sommité comme ça du monde musical. Et donc dans un premier temps, Monique m'a proposé plutôt d'aller vers des musiques, comment dire, des projets comme ça de baroque, puisque j'ai une formation aussi d'abord de chanteur classique, plutôt basse grave. Et bon, mon expérience en fait m'a amené plutôt vers des formes de théâtre musical, et je dirais que je me suis comme ça doucement un peu éloigné des formes très classiques. Ça m'arrive encore d'aborder des choses du répertoire classique, mais je dirais que mon désir, et particulièrement je dirais toute la part de comédien qu'il y a en moi, appelle plutôt la création, le répertoire contemporain, l'univers de la chanson. Et il se trouve que j'avais déjà pas mal réfléchi sur le sujet des Fables de La Fontaine, parce que je savais qu'il y avait un répertoire extrêmement étendu. Alors pour citer un exemple, il y a dans le répertoire baroque un compositeur comme Clérambeau qui a écrit beaucoup beaucoup de fables, mais il y a aussi les frères Jacques qui ont magnifiquement interprété les Fables de La Fontaine. Et je trouvais qu'il y avait là un éventail en fait de propositions absolument formidables. C'était quelque chose qu'on pouvait faire au clavecin. Il y a par ailleurs une compositrice avec laquelle j'ai déjà travaillé qui s'appelle Isabelle Aboulker, qui a écrit une pièce qui s'appelle Fable Opéra, que j'ai eu l'occasion de mettre en scène avec la maîtrise de l'Opéra de Lyon. Et j'avais souvenir dans ce répertoire de fables qu'elle avait choisi, quelques pièces qui étaient pour moi vraiment des bijoux. C'est à la fois de la musique savante, mais on n'est pas loin de la chanson, en fait. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'était chanté par des gamins, ils avaient 7-8 ans. Donc dans toute la spontanéité, la simplicité en fait de leur exécution, et c'était extrêmement sensible et délicat. Et j'avais beaucoup aimé ça, et donc je m'étais dit, ah bah tiens, je mélangerais bien les univers Clérambeau, Jean Français qui a écrit des fables justement pour les frères Jacques, et puis quelques autres compositeurs. Il y a des romantiques comme Gounod par exemple a écrit des très jolies fables, enfin des très très belles musiques sur les fables. Et il y avait cet instrument, le clavecin, qui a un avantage. Le premier, c'est qu'il est mobile, c'est-à-dire qu'un clavecin, ça se déménage assez facilement. Et on pouvait imaginer d'aller jouer dans des jardins, dans des cours, dans des écoles. Enfin, pas besoin de l'amplifier. La voix non plus, puisque bon, j'ai une voix, comment dire, de formation classique, donc ça appelle pas l'amplification. Voilà. C'était, comment dire, l'occasion comme ça d'un lancement de projet, puisque il était, comment dire, très très en germe, hein, mais pas du tout. Et là, on avait tout à coup une opportunité de jouer assez vite, de rencontrer un public, d'avoir une forme de d'aide à la création. Donc, évidemment, c'était une occasion à saisir. Je crois, oui, on peut pas se masquer que on fait énormément de projets un peu en autoproduction. Et parfois, ça marche très bien. Et puis parfois, il y en a d'autres qui restent un peu comme ça dans les cartons. Et donc là, il y avait cette opportunité. On s'est dit, bon, on fonce, quoi. On y va, c'est le moment. Voilà. Mais nous n'avons pas joué parce qu'il y a eu une histoire de, un peu, comme ça, un peu de compression de date. C'était compliqué, c'était compliqué. On était parti sur le temple de Pont-de-Car, mais il y avait une incertitude parce qu'il y avait des travaux à ce moment-là, proximité de la route, enfin, c'était pas gagné, en fait. Et finalement, il a été question à un moment d'aller plutôt vers la salle polyvalente, de Pont-de-Car également. J'ai eu l'occasion de jouer dans un temple, alors justement à la fin d'un des premiers épisodes de la crise Covid, j'avais passé 6 mois sans rien faire, J'avais rêvé à des projets, je les ai construits, mais par contre, je n'ai pas rencontré de public. Et donc, à l'issue, c'était en septembre donc 2020, j'ai monté dans des jardins un programme de tango argentin que j'avais déjà joué, mais que je n'avais pas joué depuis quelques années, et que j'ai repris avec le pianiste Laurent Touche. Et il y avait comme ça un côté très... Albon Franquette, très spontané. Alors on a joué dans les jardins de copains, mais on a aussi joué au temple de Châtillon. Et j'ai adoré l'atmosphère de ce lieu. Mais vraiment, tu vois, le naturel de l'acoustique, la qualité du rapport avec le public. Enfin, bon, moi j'aime bien les temples. Hein, j'aime bien en général les édifices religieux. Je crois que c'est un truc lié un peu à l'enfance, tu vois. Je suis originaire d'une famille où on n'allait pas particulièrement au théâtre, et je dirais que ma première rencontre avec le théâtre, en fait, c'est à travers ça va choquer peut-être d'aucuns, mais c'était le culte religieux. Il y avait là un truc de l'apparat qui, moi, me mettait en joie, et donc j'étais enfant de cœur, tu vois, vraiment le plus tard possible, à 15 ans, j'étais encore là. Mes convictions religieuses se sont étiolées, tu vois, avec l'âge, mais par contre, je dirais que c'était pour moi le premier lieu, en fait, le lieu du sacré, en fait, était le premier théâtre. Et aujourd'hui, je me dis, tu vois, ça s'est inversé, c'est-à-dire que le sacré, c'est le théâtre pour moi. Je ne sais pas ce qui crée ça. Bon, il y a un peu l'austérité, tu vois, des temples protestants. Moi, je trouve ça une grande élégance, quoi. Bon, alors ça a aussi à voir avec, tu vois, mes origines géographiques. Moi, je suis né en Alsace. Le poids de l'Église protestante est assez assez présent, et je dirais que ça s'est inscrit, quoi. Ça a quand même laissé une trace. C'est des choses qui te construisent quand même inconsciemment. Et donc, je sais pas comment dire, mais ces lieux créent une qualité d'écoute, en fait, tu vois, dans leur à la fois dans leur simplicité, mais aussi évidemment dans la résonance des murs, la noblesse des parquets, du mobilier, je sais pas, tout ça, je trouve, crée un magique, en fait, que je retrouve qu'au théâtre, en fait, tu vois, après dans des vraies salles. Alors, il y a quand même un truc très particulier, ça je l'ai ressenti, tu vois. Comme, là je ne l'ai pas éprouvé cette fois-ci, puisqu'on n'a pas joué, mais précédemment, justement, quand j'avais fait ces concerts de tango, j'avais, tu vois, convoqué mes voisins, mes copains, les potes de bistrot, quelques collègues de travail. Bah, je jouais vraiment pour les copains, quoi. Les voisins qui me découvraient, tu vois. Et ça avait je trouvais ça extrêmement plaisant. Alors je me dis, bon, là, il faut assumer de sortir d'une forme d'anonymat. C'est-à-dire qu'avant qu'ils ne m'entendent chanter, bah, j'étais le voisin sympathique. Mais, tu vois, et là, tout à coup, tu deviens un peu... tu es quand même identifié comme un artiste local, quoi. Et en fait, ça crée la surprise, en fait. C'est-à-dire que, malgré tout, tu vois, la scène, alors que ce soit dans un temple, que ce soit dans un jardin ou dans un théâtre, à plus forte raison, quand même, c'est un lieu qui te magnifie. Alors, pour peu que ta prestation soit de qualité, bah, t'es sous la lumière, quoi, sous les regards. T'es éclairé par le public, quand même, par le regard du public. Tout à coup, tu deviens un être quand même un peu extraordinaire. J'aime bien, moi, le public quand il est un peu vierge ou sans moins de référence, tu vois. C'est-à-dire que là, t'as tout à coup la sincérité d'une parole, la spontanéité. C'est même déroutant parfois, parce que nous, on arrive avec notre vieille culture de théâtreux, on a éprouvé plein de scènes, plein d'expériences, et tout à coup on est confronté à quelque chose de très honnête, de très direct, souvent très chaleureux, c'est très plaisant. Mais ça donne du sens aussi. Tu vois, moi j'ai passé quand même pas mal de ma vie artistique à travailler sur des grandes scènes d'opéra. Alors j'ai eu des petits rôles, parfois des rôles plus importants. J'ai chanté dans les chœurs aussi. Mais tu vois, j'en suis quand même arrivé à un moment à me dire qu'il y avait un clivage entre le public et ce que nous étions sur le plateau, qu'on ne se rencontrait pas vraiment, que ce que je produisais était quand même pour un monde très 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 restreint, en fait. Et je dirais que l'avantage, par exemple, de ces expériences type voisinade, type concert dans les jardins, type théâtre de rue, bah quand on va, comme ça peut nous arriver, dans des lieux où le public est comme ça un peu empêché, bah c'est ce rapport très très direct, quoi. Et là, tout à coup, t'es vraiment dans la relation humaine, enfin, très immédiate, et ça donne du sens. C'est-à-dire que quand tu vois dans les yeux du public l'émotion que tu lui donnes, la joie que tu lui apportes, je dirais que c'est un cadeau extraordinaire. Et puis, je dirais que ça donne du sens à ce qu'on fait, en fait. C'est-à-dire que tout à coup, ça va à un endroit, en fait, c'est ça. Ce qu'on a du mal, tu vois, à apprécier à l'opéra, par exemple, c'est à quel endroit ça va, en fait. Là, on sait que ça va quelque part et que c'est riche. Bon, de mon point de vue, tout va bien. J'ai beaucoup de propositions. Je refuse du travail en ce moment. Donc, ça peut arriver depuis longtemps, mais ça se passe plutôt bien. Après, je travaille beaucoup. J'entends les directeurs de scène me dire que c'est difficile en ce moment, que le public ne revient pas. C'est pareil pour le cinéma. On me dit que les salles ne se remplissent pas. Et donc, ça crée un trouble, tu vois, parce que je me dis, tiens, à un moment, on a exprimé cette pensée que le théâtre pouvait être inessentiel. Et je me dis, waouh, dans ce climat d'abstinence, tout à coup, on a du mal à, tu vois, réengager la machine, et c'est un peu troublant. Je me dis, pourquoi c'est pas rendu attirant, tu vois? Ça m'interroge un peu quand même. Pourquoi ça décroche, en fait, alors que... Bah, on a tant à donner et tant à recevoir. Donc, tu vois, ça me trouble un peu. Ouais. Alors, pour revenir sur le projet, en fait, l'idée, c'était... ce qu'on a commencé à travailler, hein, c'était d'alterner, en fait, des fables dites, récitées, et chantées, en fait. Donc, l'idée, c'était d'avoir deux chapeaux et de faire un tirage au sort, tu vois, de fables. Alors, j'en ai tiré une au sort. Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup sur 20 à jeun qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? Dit cet animal plein de rage. Et tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant plus de 20 pas en dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Et tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu médis l'an passé. Mais comment l'aurais-je fait ? Je n'étais pas né, reprit l'agneau, je t'ai encore ma mère. Mais si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point, mais c'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. On va le faire, hein, les fables, on va le faire bientôt. J'espère au printemps, ou je ne peux pas dire, on a une piste à dit, mais je ne peux pas dire sans avoir la garantie, bientôt.